quand tu investis dans quelque chose, tu l'aimes. Bah, tu développes un sentiment d'attache à ton tank. Une masse de 60 tonnes qui sert à tuer. Mais il est au-dessus de ça. Il est transi d'amour. Il fait un acte de bravoure, d'amour, de grandeur pour sa femme. Ce jour dédié pour la réfoua de Ambrin Ben Elahu Yaakov, Bezrat Hashem, la question de Israël.
Comment fait-on pour aimer la Torah et la rendre primordiale dans notre vie? Parce que bien souvent, quand on parle Torah, on va penser à des règles, à des... je m'engage quelque part.
Des contraintes.
Ouais, voilà.
Casse-pieds.
Voilà. Donc, quelque part, comment je dois comprendre que derrière, il y a beaucoup d'amour et que je dois arriver justement à cette...
Ok, donc la question, elle est... Je développe la question. Hein. Beaucoup de personnes, même dans le monde religieux, mais encore plus dans le monde religieux, quand on parle de Torah, c'est un fardeau. Les non-religieux disent « ça me saoule » et puis voilà, moi je veux la liberté. Qui croient qu'on a fait un coup d'œil sur la liberté, c'est exactement le contraire, ce sont des esclaves, asservis à leur pulsion matérielle. Et il y en a qui vivent religieusement, mais ça leur casse les pieds aussi. Donc très souvent, ils veulent faire leur vie, l'essentiel, c'est la vie. Puis quand ça se heurte à la Torah, ils contournent. Et puis ça ne tient pas très longtemps, parce que leurs enfants ou petits-enfants déjà sont non religieux, parce qu'ils perçoivent que chez les parents, la Torah est un fardeau. D'habitude, parce que le grand-père était super religieux, donc le père, il n'ose pas tout quitter, il a encore reçu de la maison. Ça lui casse les pieds. Le gosse, le petit-fils, il voit très bien que ça lui casse les pieds à son père, parce que les choses se perçoivent, et donc il quitte la Torah et termine. D'où une très grande perte. Et pourtant, je développe la question. Dieu est bon, et la Torah qu'il nous a donnée est un cadeau, et le Hachem HaKadosh, qui est un des seuls hommes qui a été appelé Kadosh dans l'histoire juive, Rabbi Hamel Natar, qui est le Mashiach, un homme d'une sainteté, d'un livre, son livre d'une sainteté extraordinaire, il dit là-bas que si on se rendait compte de la douceur de la Torah, on deviendrait fou. Donc en fait, Dieu a donné un très grand cadeau. Quand je parle de Torah, c'est deux choses. C'est un, l'étude de Torah, deux, sa pratique. Et pourtant, nous sommes, chacun de nous a sa partie animale qui n'aime pas. On n'aime pas faire des efforts. Comme je disais dans un cours, d'accord, si tu demandes à un homme lambda dans le monde quel est le cliché du paradis, ben, ce sera une plage de sable blond avec la mer bleue, très belle turquoise derrière, d'accord, deux cocotiers, un hamac entre les deux. On commence par le hamac, d'abord se reposer. Après, s'il y a une jeune fille qui te met des grappes de raisin dans la bouche, et voilà, bon, c'est à peu près ça l'idée du paradis, qui est tout à fait pas ce que le peuple juif prétend être le paradis. Ça correspond exactement aux pulsions animales. D'abord, le moindre effort. Le beau temps, une femme, manger, voilà, que demande le peuple. D'accord? Et comme ça, l'animal est content. Je m'excuse, mais je ne peux pas m'empêcher de développer aussi un peu. Comme je dis souvent, mais je vais répéter parce que c'est tellement vrai, je pense que ça vaut la peine qu'un jour... des psychologues, je ne sais pas comment, des savants dans tout ce qui est les études sociales, fassent une étude comparative du bonheur, entre le bonheur des êtres humains et le bonheur des chiens. Parce que ce que les êtres humains cherchent aujourd'hui, dans 99,9% des cas, ce sont les plaisirs matériels qui sont les mêmes que les chiens ont. Un chien aime manger, il aime se reposer, il aime les chiennes et se bagarrer quand on l'embête. D'accord ? C'est à peu près les pulsions animales qu'ont les êtres humains aussi. Maintenant, si l'être humain était né à cette fin, ben, il devrait être au moins heureux comme un chien. Je suis convaincu qu'ils sont en une étude comparative, les chiens sont bien plus heureux que les êtres humains. Donc il y a un bug, il y a un problème, tu n'as pas été créé pour ça, il y a autre chose, d'accord? Alors cette autre chose, c'est effectivement la Torah, les choses spirituelles. Mais c'est un fardeau pour la partie animale. Ta question, comment faire pour passer outre le fardeau les sentiments de l'âme animale et avoir l'amour, non seulement accepter de faire, mais le faire avec joie, avec bonheur, avec être attiré. Bon, en fait, c'est une histoire d'amour.
C'est surtout la priorité.
Ouais, ouais, très bien, sur la priorité de notre vie. Qu'on sache mettre l'accent sur ce qui est essentiel et pas sur ce qui est accessoire. Forcément, au début de notre vie, la partie animale est beaucoup plus développée que la partie spirituelle. On dit que jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est que Yetzerara, que le mauvais penchant. Et après, le serrateur vivien, mais de façon progressive. Plus on grandit, plus on reçoit des parties d'âme qui commencent à nous rendre sensibles aux choses spirituelles. Mais il faut les développer, c'est clair. Et sans ça, ça n'ira pas. Alors, quelle est la méthode en gros? En fait, c'est une histoire d'amour. Et ça, il faut comprendre bien. La Torah n'est pas un ensemble d'obligations. C'est un ensemble de désirs d'Hachem, d'une histoire d'amour passionnée avec nous. Comme explique Maïmonide, que le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, c'est un exemple d'une histoire d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël et réciproquement. Et l'exemple, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Donc c'est une histoire d'amour passionnée, passionnée. Alors il y a un exemple que j'ai, je sais pas, je voulais raconter, c'est sur des coquelicots là dernièrement. Je répète quand même. Parce que c'est un exemple extrêmement parlant, d'accord? Nous sommes maintenant le, combien? 3, 4, 5 juin, quelque chose comme ça? 8 juin. En Provence, c'est le temps idéal, pas encore trop chaud, agréable, et puis il y a la floraison, c'est très beau, c'est vert, il y a des fleurs. Et Prosper et Messorda décident d'aller passer un week-end dans le petit village de Provence. Et ils sont là-bas sur la place, et tout à coup, Messorda dit à Prosper, « Oh, Prosper, regarde là-bas, comme c'est beau ouais, !» On voit comme ça, 4 kilomètres, une colline, toute rouge, pleine de coquelicots. Prosper dit, « Ah oui, t'as raison, comme c'est beau !» Bon, ils sont fiancés. Prosper veut montrer son amour extraordinaire à Messorda, et il se tourne, il voit fleuriste, le bouquet de coquelicots, 10 euros. S'il va et achète là-bas 3 bouquets de coquelicots, c'est un crétin. Joue là bien. Il dit, mais soldat, je reviens, attends-moi. Mais où vas-tu? Je reviens. Et il part. Prosper, mais soldat. Et il marche. Il fait 4 km en courant dans les ronces. Il ramasse les coquelicots, il revient, esquinté. Son costume Hugo Boss déchiré, il est sanguinolent parce que toutes les ronces l'ont griffé, il est transpirant, etc. Et il donne à Masoda, pour toi, des coquelicots. 50 ans plus tard, ils sont mariés avec des petits-enfants, et un soir d'hiver, face à la cheminée, Prosper lit le journal, Masoda en train de coudre un petit pull, et Messorda dit à Prosper, Prosper, tu te souviens, les coquelicots? Ah oui, bien sûr, Messorda, les coquelicots, comme c'était beau. S'il avait acheté 3 bouquets, il aurait déjà oublié complètement. Mais cet acte de bravoure qu'il a fait, un acte d'amour extraordinaire qui a touché Messorda, il s'en souvient encore après 50 ans, et Prosper aussi. Maintenant, je vous pose la question, quand Prosper est en train de courir maintenant dans les ronces et se fait griffer, il voit son costume Hugo Boss partir en cacahuète, quel sentiment il a? C'est un des moments les plus heureux de sa vie. Heureux de sa vie, tu te fais griffer, tu transpires, ton costume Hugo Boss, il part en cacahuète, d'accord? Qu'est-ce que tu es heureux? Il est transporté par l'amour qu'il a pour Messorda. Et c'est exactement ça la recette. Bien que le corps, la partie animale, elle n'aime pas être griffée, elle n'aime pas être transpirée, elle n'aime pas que son costume soit complètement déchiré, mais il est au-dessus de ça. Il est transi d'amour, il fait un acte de bravoure, d'amour, de grandeur pour sa femme. Idem. Comme dit le Misat Echarim, on en parle étudiant, on va y arriver, comme un chevalier, d'accord, un soldat du roi qui dans la guerre va rechercher les missions les plus difficiles par amour de son roi. C'est aujourd'hui, il n'y a plus des trucs pareils. D'accord. Mais il y a des gens qui étaient prêts à se mettre en danger pour l'amour du roi ou l'amour de la patrie. Mais tu vas peut-être crever. Mais ça passe au-dessus. L'amour. L'amour. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, j'étais allé voir à Genève, il y avait un type qui avait fait les camps, les goulags en Russie. Et il était non-juif, mais il a décidé de s'appeler juif par révolte contre le bloc totalitaire russe. et par camaraderie avec la population juive qui est extrêmement spoliée en Russie. Et je me souviens que là-bas, quelqu'un a posé la question, vous étiez donc dans un régime spécial dans les goulags. Il a dit non, un régime très spécial, d'accord, pour dire à quel point il a souffert là-bas. Il est non-juif, le type. Pourquoi il se dit juif? Il risquait sa vie. Il s'est certainement fait torturer pour cela. Mais sa conviction, l'amour de la liberté contre le totalitarisme était tellement puissant que ça dépasse tout. Donc dans ta question maintenant, quelqu'un maintenant qui est amoureux de Dieu, ce qu'il faut développer, c'est ça, on va en parler, comment on développe l'amour, mais c'est exactement ça le point. Quand quelqu'un va développer l'amour de Dieu, l'amour de la Torah, c'est fini, au contraire, plus il y aura des fardeaux, plus il sera content d'aller prouver, d'aller montrer à Hachem son amour. Ok, ça c'est là, on va dire, c'est pas la méthode, c'est le target, le but, comment arriver à cela? Comment arriver à être amoureux?
Oui, mais c'est ça la grande différence, c'est que elle est belle cette histoire-là, comme ça date, tout ça, tous les contents. Vous voyez, mais il y a un retour. C'est-à-dire qu'on voit physiquement, on sent, on voit, enfin on a, voilà, vous voyez, comme un retour. Ouais. Vis-à-vis d'Hachem, parfois, on ressent peut-être pas.
Ok, ta question rejoint ce que je dis.
Alors,
je te pose la question. Ma Soda, elle va faire un grand sourire, elle va me prendre dans ses bras, on est tout content, on se marie. Mais Hachem, je vois ni le sourire, ni prendre dans les bras, ni le mariage. Alors, tu rejoins ce que je viens de dire maintenant. Comment arriver à être amoureux? Amoureux, tu dis, il faut que ça soit réciproque. Alors, je réponds, c'est réciproque. Et j'expliquais la méthode. D'abord, il y a une mitzvah super bizarre dans la Torah. Il y a deux mitzvot, il y a trois mitzvot d'amour, la vérité. Trois choses pour lesquelles c'est marqué, tu seras amoureux. Un, tu aimeras ton prochain. 1. Vaftem et ta guerre, vous aimerez le converti. Et 3. Vaftem Hashem Elokecha, actuellement l'éternel tendu de tout ton corps, tout ton âme, tout ton pouvoir. Trois fois, la Torah nous ordonne d'aimer. Là, je pose une question. Dieu, tu m'ordonnes maintenant, Shabbat, allume la lumière. Je peux me retenir d'allumer la lumière. Tu m'ordonnes de mener de filine, allez, je mets les filines. Tu m'ordonnes de jeûner à Kippour, je jeûne à Kippour. Ok, faire la bénédiction avant de nous manger, c'est la bénédiction. Mais tu m'ordonnes d'aimer. D'aimer, c'est un sentiment. Ou on aime, ou on n'aime pas. Comment est-ce qu'on peut m'obliger, m'ordonner d'aimer? Quelqu'un, il n'aime pas sa femme. Elle lui casse les pieds terriblement. Il ouvre la Torah, Dieu lui dit, tu l'aimeras. C'est qui son prochain? D'abord son conjoint. Je l'aime pas. Tu l'aimeras! Bon, il essaye. Comment on fait ça? Au pire, on va encore plus la détester, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Or, la Torah dit que c'est non seulement une mission obligatoire, mais c'est l'essentiel de toute la Torah, l'amour entre les gens. Et l'amour de Dieu, c'est la première mission qui vient après Shema Israël. Donc c'est super basique. Et, comme je dis, c'est l'essentiel de toute la Torah, c'est ça l'essentiel. Toute l'histoire de la Torah, toute notre relation avec Dieu, Dieu a voulu une histoire d'amour. Comme c'est écrit dans le Talmud, Rahmana Libabae, Dieu veut le cœur. Et mon cœur, il n'est pas intéressé. Et d'autant plus, comme tu dis, tu m'as envoyé une femme sympathique, jolie, ok, ça, je peux encore tomber amoureux. Mais Dieu, il est où, comment, quoi? Réponse. Comment fait-on pour être amoureux? Alors, il y a un point intéressant à voir dans la nature. Qu'une mère qui met au monde un enfant, elle en est folle amoureuse. Bien qu'il n'y ait aucun feedback. La première fois où un enfant commence à faire un sourire, c'est quelques semaines. Et c'est un fardeau terrible. Terrible. Il pleure au moment les plus casse-pieds de la nuit, pas de la journée. Tu donnes le biberon ou le sein, puis après il vomit tout, allez, rebelote, faut tout recommencer. Après il grandit, il devient un grand morceau de Yetzer Hara, tout ce qui est casse-pied, d'accord? Les enfants ont une faculté de jouer sur les nerfs des parents, mais exactement sur la bonne note, d'accord? Pour te rendre fou. Et comme on dit, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Et pourtant, la mère, et le père aussi, mais la mère plus, en est complètement folle d'amour. Il lui donne rien, c'est qu'un fardeau.
Il voit un
casse-pied. Alors, le Ben Israël.
Il peut se projeter.
Le Ben Israël a dit que Dieu a fait un miracle, que les enfants sont mignons. Sinon, on les étranglerait. Parce que heureusement, mais sinon, mais c'est insupportable. Insupportable. Heureusement qu'ils sont mignons. Mais la mère, plus qu'elle supporte, elle est amoureuse, folle, folle. Pourquoi? Très simple. Elle a investi. Quand tu investis dans quelque chose, tu l'aimes. Elle l'a porté pendant 9 mois, avec tout ce que ça implique, les vomissements les 3 premiers mois, et les lourdeurs, etc. L'accouchement, je ne te dis pas quel investissement, d'accord? Même avec le péridural, c'est quand même un gros effort. Puis les fatigues et tout ça, le post-accouchement, un investissement terrible, plus comme je dis, toutes les nuits, jour et nuit, c'est un asservissement, les premières semaines, asservissement total, total. Vu qu'elle investit, elle aime. Et ça, c'est une donnée qui va nous aider à aimer la Torah, à aimer Dieu au point où tout ce fardeau disparaîtra, parce que tu seras amoureux. Comment? Alors, j'explique maintenant encore des exemples. Exemple, cette table, d'accord? Quelqu'un construit une table. Il va acheter les morceaux de bois, il les scie, il les colle, il vernit, il a une table. Quelqu'un vient lui dire, écoute, il y a la même table dans le magasin, même un peu mieux que la tienne, tu es prêt à échanger? Il dit non. Mais elle est mieux là-bas. Je préfère la mienne. Pourquoi? Parce qu'il a mis de lui-même là-dedans. Et il a donc développé, entends bien, un sentiment d'attache à de la colle avec du vernis et du bois. C'est complètement fou. Pourquoi?
Parce qu'il voit le résultat. Alors que vis-à-vis d'Hachem, quelque part, on n'est pas dans ce rapport-là.
D'accord, donc tu répètes le même argument.
La femme avec son enfant, elle voit quand même qu'il y a un résultat.
Tu répètes le même argument.
Vis-à-vis d'Hachem et de
j'ai
la
compris.
Torah.
Tu répètes le même argument, comme quoi, Dieu, on ne le voit pas. Je vais y arriver. Mais néanmoins, c'est quand même bizarre que je lui propose une table qui soit meilleure. Il préfère sa table, ça veut dire qu'il a développer un sentiment d'amour à du bois. Il faut le faire. J'ai fait l'armée en Israël. Je suis tankiste. Tu passes 23 heures sur 24 par jour à t'occuper de ton tank. Le régler, le graisser, le boulonner, le visser, etc. Toute ta vie, c'est ça. Bah, tu développes un sentiment d'attache à ton tank. Une masse de 60 tonnes qui sert à tuer. C'est phénoménal. C'est une donnée. Quand quelqu'un investit dans quelque chose, il commence à l'aimer. Dieu te dit, commence à investir dans ton prochain, commence à investir dans moi. Et ça marche. Pourquoi? Et là, j'arrive à ton point, d'accord, que tu répètes sans cesse. On a en nous une partie divine qui s'appelle la Neshama, qui est divine. Et par le fait qu'elle est divine, elle est sensible à la divinité. Elle est sensible. Ça veut dire que en investissant dans la Torah, et en essayant de développer l'amour de Dieu, qui vient, on a fait beaucoup de cours sur le sujet, mais essentiellement par Hakarat HaTov, la reconnaissance du bien que Dieu nous fait. Il faut comprendre que rien n'est normal. Rien n'est normal. Ce n'est pas normal que je me lève le matin. Je pourrais ne pas me lever, comme ça arrive, des gens ne se lèvent pas. D'accord? Ce n'est pas normal que tu vois des deux yeux. Ce n'est pas normal que tu digères. Ce n'est pas normal que tu respires. Ce sont des cadeaux quotidiens. Baruch HaShem, c'est très rare aujourd'hui que des gens crèvent de faim. Ah, il y a des problèmes, mais tu vois que tu vis. Tu reçois des cadeaux extraordinaires, mais on ne les voit pas. Et quand au contraire, quelque chose qui ne va plus, on dit hey, « pourquoi ?» Et des fois, on met Dieu sur le banc des accusés, « je ne comprends pas, je fais tout bien, alors pourquoi tu me fais ça ?» D'accord? À l'envers. Combien on doit avoir de reconnaissance du bien à Hachem? Celui qui commence à travailler là-dessus, commence à investir dans Hachem, dans l'étude de Torah, et spécialement dans une chose qui amène beaucoup, beaucoup l'amour de Dieu, c'est la prière. Alors, au bout d'un moment, grâce à l'outil qu'il a divin en lui, qui s'appelle l'Eneshama, il y aura un feedback, tu m'entends? C'est pas que tu vas voir Dieu, comme c'est écrit, « Lo iraneh Adam v'chai », personne ne peut me voir et survivre, on ne peut pas voir Dieu. Mais sentir Dieu, bien sûr, vivre Dieu, aimer Dieu, oui, sans le voir, sans ça, parce que on a en nous une partie divine qui peut se mettre en relation. Mon corps ne va jamais sentir Dieu, jamais voir. Les yeux de chair ne peuvent pas voir. Mais les yeux de l'esprit, ça veut dire la Neshama, c'est ça notre partie divine qui est en nous. Elle vibre en moi. Tu as des gens qui sont extrêmement... On va parler maintenant, quelqu'un qui n'est pas amoureux de Dieu. Il y a beaucoup de juifs qui sont amoureux du peuple d'Israël. Mais un amour fou! Cet amour, de quoi il provient? C'est une chose spirituelle, totalement spirituelle. C'est pas qu'il aime lui plutôt que lui. C'est une notion spirituelle générale, le peuple d'Israël. C'est pas un nationalisme à deux balles comme il y a dans certains pays, où il y avait un certain temps dans certains pays. C'est beaucoup plus profond. À la base, il faut savoir, c'est écrit que Dieu et la Torah Israël font un. Et même des gens qui ne sont pas croyants en Dieu, mais qui ont l'amour d'Israël, c'est en fait un amour de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune raison rationnelle, cet amour du peuple d'Israël. Ce n'est pas un nationalisme à deux balles, c'est beaucoup plus grand. Ils se sentent impliqués avec toute l'histoire du peuple d'Israël. Ils liront que, je ne sais pas moi, il y a 2000 ans, un juif s'est fait torturer parce qu'il était juif, ça lui fera mal. Il verra les pogroms de cheministes qui sont en Ukraine il y a 300 ans, ça lui fera mal. Eh, ça va, comme je dis souvent, hein, combien de Russes sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale? Vous avez une idée? 22 millions. 22 millions, presque 4 fois plus que les Juifs. Est-ce qu'il y a un Russe aujourd'hui à qui ça fait un petit guili-guili? 22 millions de Russes, de compatriotes morts dans la Shoah, ils s'en foutent complètement. Et nous? T'as un juif qui n'est pas touché par la Shoah? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Il y en a beaucoup que oui, d'accord. Mais on va dire, ceux du monde sfarade, d'accord, ça, t'es en Tunisie, au Maroc, au Hachem, t'as pas eu de problème là-bas. Ok, bon, ok. Ça te touche. Ça veut dire que notre âme, elle est sensible aux choses spirituelles, qui sont entre autres le peuple d'Israël, qui sont entre autres la vérité. On ne veut pas parler de Dieu en tant que Dieu. Mais ce sont des habits de Dieu. Le peuple d'Israël, c'est un habit de Dieu. La vérité, c'est un habit de Dieu. Comme je vais expliquer souvent, Yosef, passe-moi ta main, d'accord? Voici maintenant la main de Yosef. Mais ce n'est pas Yosef, c'est un habit. C'est marqué dans Job, c'est marqué « tu m'as recouvert de peau et de chair ». Dieu, tu m'as recouvert de peau et de chair. Alors, la peau et la chair, ça a recouvert moi. C'est qui ce moi? Ben c'est Yosef. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est l'habit. Mais quand je tire l'habit, il vient avec. Si je prends par la chemise, il vient aussi avec. Donc si maintenant, moi, je veux avoir Dieu, je peux, quand je ne suis pas capable de m'adresser à Dieu directement parce que c'est trop inconnu pour moi, il y a déjà des moyens qui sont des premiers moyens. Faire les choses par amour du peuple d'Israël, pour le peuple d'Israël. Faire les choses par amour de la vérité. Et lentement, parce qu'on a ces outils. Et comme dit le Zohar à Kadosh, plus tu fais, plus tu reçois. Plus quelqu'un va investir, plus il va recevoir des parties d'âme plus grandes qui lui permettront d'être en relation et en feeling avec Hachem. Et il y a ce feedback, il existe, bien sûr qu'il existe, très puissant. Il y a beaucoup de juifs, si tu leur demanderas, ça t'est arrivé déjà de ressentir une chose spirituelle dans la Torah? Beaucoup te diront oui. Pas au jour le jour, mais par exemple les grands jours comme Rosh Hashanah, ou Kippour, d'accord, on peut ressentir des choses. C'est là qu'il faut investir. C'est-à-dire que ça se trouve. Si tu as pu le sentir, alors qu'il n'y a rien de physique et qu'il n'y a rien à voir, ça prouve qu'il y a comme une réalité spirituelle qui, chez toi, elle a un répondant. Ça fait un écho. C'est là qu'il faut investir. Et quand on investit dans l'âme, et je répète, un des grands moyens de rapprochement de Dieu et de feeling de Dieu, c'est la prière. Il y a des gens qui peuvent pleurer. J'ai eu une fois Je ne reçois pas les noms juifs ici à la yeshiva tant qu'ils n'ont pas fini leur conversion. Un m'a beaucoup, beaucoup demandé de venir. J'ai accepté qu'il vienne une semaine. Il priait ici, face au poteau là. Il avait des larmes. En tant que non-juif, après il s'est converti, vous connaissez tout, je ne veux pas dire de qui il s'agit, d'accord? Il avait des larmes. Larmes de quoi? Larmes de quoi? Tu es devant un poteau, tu dis des mots. Ça, c'est le physique. Mais il a un bagage, une réalité spirituelle qui est oui! En relation avec Hachem, mais il y a un feedback. Alors, ce n'est pas qu'il sent une caresse de Dieu comme ça, mais il sent quelque chose de très profond. Il sent. On peut sentir. Plus on va investir. Alors, si on peut investir par amour de Dieu, c'est le top. Mais des fois, on n'a pas l'amour suffisant de Dieu pour pouvoir investir. On va investir parce que je dis les habits. Tu vas investir pour le peuple d'Israël, qu'il y ait du bien pour le peuple d'Israël, qu'il y ait plus de pérennité pour le peuple d'Israël, une réussite du peuple d'Israël. Ça, tu l'as. Tu vas faire aussi par amour de la vérité. Tu as en toi une sensibilité à la vérité. Investis dans ce sens-là. Au bout d'un moment, ça s'appellera Yudke Vavke, le nom de Dieu. Et tu seras amoureux. Le moment que tu es amoureux, tu deviens prospère avec mes soldats. Et tu pourras te battre contre toutes les pulsions de paresse,
de tout ce que j'en sais qui t'empêche de faire la Torah. Au contraire, tu seras le chevalier de Dieu, le cavalier, le combattant de Dieu, avec bonheur, avec bonheur, avec bonheur. C'est ça que Dieu veut. C'est exactement ça. Dieu veut le cœur, une histoire d'amour. Et plus il y aura des difficultés, plus l'amour pourra être grand. C'est pour ça que Dieu aussi envoie des épreuves. Hachem, on ne demande pas les épreuves ni leur mérite. Mais tu vois, des grands tzadikim, des fois, ils se ramassent des Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Pourquoi ? Ce sont des grands tzadikim et Dieu veut que l'histoire d'amour entre eux soit encore beaucoup plus grande. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.